Les classiques de la littérature mystérieuse. Aujourd'hui, l'affaire Le Rouge d'Émile Gaborio. Première partie. Le jeudi 6 mars 1862, surlendemain du Mardi Gras, cinq femmes du village de la Jonchère se présentaient au bureau de police de Bougival. Ça faisait deux jours qu'elles avaient vu une de leurs voisines, la veuve Le Rouge, qui habitait seule une maison isolée. À plusieurs reprises, elles avaient frappé, mais en vain. Les fenêtres, comme la porte, étant fermées, il avait été impossible de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ce silence, cette disparition les inquiétait, bien sûr. Redoutant un crime, ou tout au moins un accident, elles demandaient que la justice voulût bien, pour les rassurer, forcer la porte et pénétrer dans la maison. Bougival est un pays aimable, peuplé tous les dimanches de canotiers. On y relève beaucoup de délits, mais les crimes y sont rares. Le commissaire refusa donc d'abord de se rendre à la prière des solliciteuses. Cependant, elles firent si bien, elles insistèrent tant et si longtemps, que le magistrat, fatigué, finit par céder. Il envoya donc chercher le brigadier de gendarmerie et deux de ses hommes, il fit demander un serrurier, et ainsi accompagné, suivit les voisines de la veuve Le Rouge. La Jonchère doit quelques célébrités à l'inventeur du chemin de fer à glissement, qui depuis quelques années y fait, avec plus de persévérance que de succès d'ailleurs, des expériences publiques de son système. C'est un hameau sans importance, assis sur la pente du coteau qui domine la Seine, entre la Malmaison et Bougival. Il est à 20 minutes environ de la grande route qui va de Paris à Saint-Germain en passant par Rueil et Port-Marly. Un chemin escarpé, inconnu aux ponts et chaussées, y conduit. La petite troupe, les gendarmes en tête, suivit donc la large chaussée qui endigue la Seine à cet endroit, et bientôt, tournant à droite, s'engagea dans le chemin de traverse bordé de murs et profondément encaissé. Après quelques centaines de pas, on arriva devant une habitation modeste mais d'honnête apparence. Cette maison, ou plutôt cette chaumière, devait avoir été bâtie par quelques boutiquiers parisiens amoureux de la belle nature, car tous les arbres avaient été soigneusement abattus. Plus profonde que large, elle se composait d'un rez-de-chaussée de deux pièces, avec un grenier au-dessus. Autour s'étendait un jardin à peine entretenu, mal protégé contre les maraudeurs par un mur en pierre sèche, d'un mètre de haut environ, qui encore s'écroulait par place. Une légère grille de bois, tournant dans des attaches de fil de fer, donnait accès dans le jardin. « C'est ici, » dirent les femmes. Le commissaire de police s'arrêta. Pendant le trajet, sa suite s'était grossie de tous les badauds et de tous les désœuvrés du pays. Il était maintenant entouré d'une quarantaine de curieux. « Que personne ne pénètre dans le jardin, » dit-il. Et pour être certain d'être obéi, il plaça les deux gendarmes en faction devant l'entrée et s'avança, escorté du brigadier de gendarmerie et du serrurier. Lui-même, à plusieurs reprises, frappa très fort avec la pomme de sa canne plombée, à la porte d'abord, puis successivement à tous les volets. Après chaque coup, il collait son oreille contre le bois et écoutait. N'entendant rien, il se retourna vers le serrurier. « Allez, ouvrez, » lui dit-il. L'ouvrier déboucla sa trousse, prépara ses outils. Déjà, il avait introduit un de ses crochets dans la serrure, quand une grande rumeur éclata. « La clé ! On a trouvé la clé !» En effet, un enfant d'une douzaine d'années, jouant avec un de ses camarades, avait aperçu dans le fossé qui borde la route une clé énorme. Il l'avait ramassée et la portait en triomphe. « Donne, gamin !» lui dit le brigadier. « Nous allons voir. » La clé fut essayée. C'était bien celle de la maison. Le commissaire et le serrurier échangèrent un regard plein de sinistres inquiétudes. « Ça s'annonce mal !» murmura le brigadier. Et ils entrèrent dans la maison, tandis que la foule, contenue avec peine par les gendarmes, trépignait d'impatience, tendant le cou et s'allongea sur le mur pour tâcher de voir, de saisir quelque chose de ce qui allait se passer. Ceux qui avaient parlé de crime ne s'étaient malheureusement pas trompés. Le commissaire de police en fut convaincu dès le seuil. tout dans la première pièce dénoncée avec une lugubre éloquence la présence des malfaiteurs. Les meubles, une commode, deux grands bahuts étaient forcés et défoncés. Dans la seconde pièce, qui servait de chambre à coucher, le désordre était plus grand encore. C'était à croire qu'une main furieuse avait pris plaisir à tout bouleverser. Enfin, près de la cheminée, la face dans les cendres, était étendu le cadavre de la veuve Lerouge. Tout un côté de la figure et les cheveux étaient brûlés. C'était miracle que le feu ne se fût pas communiqué aux vêtements. « Ah, les canailles !» murmura le brigadier de gendarmerie. « Ils auraient pas pu la voler sans l'assassiner, non, cette pauvre femme ?»« Où a-t-elle été frappée ?» demanda le commissaire. « Je ne vois pas de sang. Tenez, là. Vous voyez, entre les deux épaules, deux coups. Ici, ici. Vous voyez ? Elle n'a pas su ce qui lui arrivait. » Il se pencha sur le corps et le toucha. « Elle est bien froide, encore souple. » Ça remonte à au moins 36 heures. Hein. Le commissaire, tant bien que mal, écrivait sur un coin de table un procès-verbal sommaire. « Bon, bah, il ne s'agit pas de pérorer, hein, dit-il au brigadier, mais bien de trouver les coupables. Alors qu'on prévienne le juge de paix et le maire. Depuis, il va falloir courir à Paris, hein, porter cette lettre au parquet. Dans 2 heures, un juge d'instruction peut être ici. Donc moi, en attendant, je procède à une enquête provisoire. Est-ce moi qui dois porter la lettre ? Demanda le brigadier. Non, non, c'est pas la peine, il n'y a qu'à envoyer un de vos hommes. J'ai besoin de vous ici pour contenir les curieux. Et puis aussi, il faut me trouver des témoins, hein. On va en avoir besoin. Surtout qu'on ne touche à rien, hein. Moi, je vais m'installer dans la première chambre. Un gendarme s'élança au pas de course vers la station d'Orveil. Et aussitôt, le commissaire commença l'information préalable prescrite par la loi. Qui était cette veuve Lerouge ? D'où était-elle ? Que faisait-elle ? De quoi vivait-elle ? Et comment ? Quelles étaient ses habitudes, ses mœurs, ses fréquentations ? Lui connaissait-on des ennemis ? Était-elle avare ? Passait-elle pour avoir de l'argent ? Au contraire, voilà ce qu'il importait au commissaire de savoir. Mais pour être nombreux, les témoins n'en étaient pas mieux informés. Les dépositions des voisins successivement interrogés étaient vides, incohérentes, incomplètes. Personne ne savait rien de la victime étrangère au pays. Beaucoup de gens se présentaient d'ailleurs, qui venaient bien moins pour donner des renseignements que pour en demander. Une jardinière qui avait été l'amie de la veuve Lerouge et une laitière chez qui elle se fournissait purent seules donner quelques renseignements assez insignifiants, mais précis. Enfin, après 3 heures d'interrogatoire insupportable, après avoir subi tous les on-dit du pays, recueilli les témoignages les plus contradictoires et les plus ridicules commérages, voici ce qui parut à peu près certain au commissaire de police. 2 ans auparavant, au commencement de 1860, la femme Lerouge était arrivée à Bougival avec une grande voiture de déménagement, pleine de meubles, de linge et d'effets. Elle était descendue dans une auberge, manifestant l'intention de se fixer dans les environs, et aussitôt s'était mise en quête d'une maison. Ayant trouvé celle-ci à son gré, elle l'avait louée sans marchander, moyennant 320 francs, payable par semestre et d'avance, mais n'avait pas consenti à signer de bail. La maison louée, elle s'y était installée le jour même, et avait dépensé 100 francs en réparation. C'était une femme de 54 ou 55 ans, bien conservée, forte et d'une santé excellente. Nul ne savait pourquoi elle avait choisi pour s'établir un pays où elle ne connaissait absolument personne. On la supposait normande, parce que souvent le matin on l'avait aperçue coiffée d'un bonnet de coton. Cette coiffure de nuit ne l'empêchait quand même pas d'être très coquette le jour. Elle portait d'ordinaire de très jolies robes, mettait force rubans à ses bonnets, et se couvrait de bijoux comme une chapelle. Sans doute, elle avait habité la côte, car la mer et les navires revenaient sans cesse dans ses conversations. Elle n'aimait pas parler de son mari, mort, disait-elle, dans un naufrage. Jamais à ce sujet, elle n'avait donné le moindre détail. Une fois seulement, elle avait dit à la laitière, devant 3 personnes, « Jamais une femme n'a été plus malheureuse que moi dans son ménage. » Une autre fois, elle avait dit « Tout nouveau, tout beau, « défunt mon homme, ne m'a aimé qu'un an. » La veuve Lerouge passait pour riche, ou du moins pour très à l'aise. Elle n'était pas avare, elle avait prêté à une femme de la malmaison 60 francs et n'avait pas voulu qu'elle les lui rendît. Une autre fois, elle avait avancé 200 francs à un pêcheur de Port-Marly. Elle aimait bien vivre, dépensait beaucoup pour sa nourriture, faisait venir du vin par demi-pièce. Son plaisir était de traiter ses connaissances et ses dîners étaient excellents. Si on la complimentait d'être riche, elle ne s'en défendait pas beaucoup. On lui avait souvent entendu dire « Je ne possède pas de rente, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin. Si je voulais davantage, je l'aurais. » D'ailleurs, jamais la moindre allusion à son passé, à son pays ou à sa famille n'avait été surprise. Elle était très bavarde, mais quand elle avait bien causé, elle n'avait rien dit que du mal de son prochain. Elle devait pourtant avoir vu le monde et savait beaucoup de choses. Très défiante, elle se barricadait chez elle comme dans une forteresse. Jamais elle ne sortait le soir. On savait qu'elle s'enivrait régulièrement à son dîner et qu'elle se couchait après. Rarement on avait vu des étrangers chez elle, 4 ou 5 fois une dame, un jeune homme, et une autre fois 2 messieurs, un vieux très décoré et un jeune. Ces derniers étaient venus dans une voiture magnifique. En somme, on l'estimait peu. Ses propos étaient souvent choquants et singuliers dans la bouche d'une femme de son âge. On l'avait entendu donner à une jeune fille les plus détestables conseils. Un charcutier de Bougival, gêné dans son commerce, lui avait cependant fait la cour. Elle l'avait repoussé en disant que se marier une fois, c'était bien suffisant. À diverses reprises, on avait vu venir des hommes chez elle. D'abord, il y avait un jeune, qui avait l'air d'un employé du chemin de fer, puis un grand brun assez vieux, vêtu d'une blouse, et qui paraissait très méchant. On supposait que l'un et l'autre étaient ses amants. Tout en interrogeant, le commissaire résumait par écrit les dépositions, et il en était là lorsqu'arriva le juge d'instruction. Il amenait avec lui le chef de la police de sûreté et un de ses agents. Monsieur Daburon, que ses amis ont vu avec surprise donner sa démission pour aller planter ses choux au moment où se dessinait sa fortune, était alors un homme de 38 ans, bien fait de sa personne, il était sympathique malgré sa froideur, d'une physionomie douce et un peu triste. Cette tristesse lui était restée d'une grande maladie qui 2 ans auparavant avait failli l'emporter. Juge d'instruction depuis 1859, il s'était vite acquis une brillante réputation, laborieux, patient, doué d'un sens subtil. Il savait, avec une pénétration rare, démêler les affaires les plus embrouillées et, au milieu de 1000 fils, saisir celui qui menait à la solution. Nul mieux que lui, armé d'une implacable logique, ne pouvait résoudre ces terribles problèmes où X est le coupable. Habile à déduire du connu à l'inconnu, il excellait à grouper les faits et à réunir en un faisceau de preuves accablantes les circonstances les plus futiles et en apparence les plus indifférentes. Avec tant de si précieuses qualités, il ne paraissait cependant pas né pour ces terribles fonctions. Il ne les exerçait qu'en frémissant, se défiant de l'entraînement de ses immenses pouvoirs. L'audace lui manquait pour les coups de théâtre risqués qui font éclater la vérité. Il avait été long à s'accoutumer à certaines pratiques employées sans scrupule par les plus rigoristes de ses confrères. Ainsi, il lui répugnait de tromper même un prévenu et de lui tendre des pièges. On disait de lui au parquet « c'est un trembleur ». Le fait est qu'au seul souvenir des erreurs judiciaires connues, ses cheveux se dressaient sur sa tête. Ce qu'il lui fallait à lui, c'était non la conviction, non les plus probables présomptions, mais la certitude absolue. Pas de repos jusqu'à ce que l'accusé soit forcé de courber le front devant l'évidence. Si bien qu'un substitut lui reprochait en riant de chercher non pas des coupables, mais des innocents. Le chef de la police de sûreté, lui, n'était autre que le célèbre Gévrol, habile mais pas très persévérant et d'une incroyable obstination. S'il perd une piste, il ne peut consentir à l'avouer, encore moins à revenir sur ses pas. D'ailleurs, plein d'audace et de sang-froid, il est impossible à déconcerter. D'une force herculéenne, cachée sous des apparences grêles, il n'a jamais hésité à affronter les plus dangereux malfaiteurs. Mais sa spécialité, sa gloire, son triomphe, c'est une mémoire des physionomies si prodigieuse qu'elle passe les bornes du croyable. A-t-il vu une figure 5 minutes ? C'est fini. Elle est casée, elle lui appartient. Partout, en tout temps, il la reconnaîtra. Les impossibilités des lieux, les invraisemblances de circonstances, les plus incroyables déguisements ne le dérouteront pas. Cela tient, prétend-il, à ce que d'un homme, il ne voit, il ne regarde que les yeux. Il reconnaît le regard sans se préoccuper des traits. L'expérience fut tentée il n'y a pas longtemps à Poissy. On drapa dans des couvertures trois détenus afin de déguiser leur taille. On leur mit sur la face un voile épais où des trous étaient ménagés pour les yeux et on les présenta ainsi à Gévrol. Sans la moindre hésitation, il les reconnut et les nomma. La part du hasard dans tout ça, à vous de voir. L'aide de camp de Gévrol était ce jour-là un ancien repris de justice, réconcilié avec la loi, un gaillard habile dans son métier, fin comme l'ambre, mais jaloux de son chef, qu'il jugeait médiocrement fort. On le nommait le coq.